Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Yann Chiarelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez fait paraître une somme, une thèse énorme au début de cette année sur l'histoire du franc suisse. Elle a été réduite, alors j'ai deux livres devant moi, c'est assez frappant, réduite à une portion lisible pour le profane, hein, aux éditions Savoir Suisse. La naissance du franc suisse, c'est une histoire, c'est une histoire qu'on ne connaît pas, et grâce à vous, on va pouvoir en parler. Vous me recevez dans une boutique où, je ne suis pas étonné parce que je le savais, mais on est entouré de monnaie. Décidément, vous vivez dans l'histoire des sous.
Voilà, après avoir fait une thèse sur le sujet, donc un travail théorique, maintenant je suis dans la pratique où je m'occupe vraiment concrètement des pièces de monnaie, de leur expertise, de leur achat et de leur vente.
Alors, c'est une petite boutique à Lausanne, spécialisée dans la vente de monnaie ancienne, on est d'accord. Ça, l'aspect historique a de toute façon une importance dans cette affaire.
Alors, pas uniquement, non. On expertise également des pièces plus récentes, qu'elles soient suisses ou étrangères d'ailleurs.
Ça date de quand la monnaie ?
Ouh, c'est vieux comme le monde, ça. C'est très très vieux. Ça avait d'autres formes avant, ça a pris plein de formes différentes au cours de l'histoire. En période de crise, la monnaie est aussi remplacée par d'autres choses, comme de la porcelaine ou des timbres-poste, mais elle a une histoire très ancienne.
Bon, c'est vieux comme le monde, il y a quand même un moment de révolution monétaire, hein, à partir du moment où on abandonne le troc pour créer un truc là qui vient se mettre au milieu et qui permet de commercer.
Voilà, alors ça c'est un processus très long qui débute plus ou moins dans le courant du Moyen-Âge et qui vraiment aboutit vers le 18e, 19e siècle.
Là, vous parlez de la Suisse.
Non, à l'échelle mondiale.
Non, parce que, alors, il y a des monnaies dans l'Antiquité. Moi, je vous parlais de la création de la monnaie.
Oui.
Ces moments-là, ils sont beaucoup plus anciens que le Moyen-Âge.
Ah, complètement, oui, oui, oui. Alors, il y a des monnaies, mais ce qu'on appelle un peu cette monétarisation de la société, où l'argent prend une importance très grande, ça aboutit vraiment au 18e et 19e siècle.
Ouais, c'est fou, parce qu'il y a des monnaies, en effet, dans la Grèce antique, etc. On monte jusqu'à, 1000 avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça, mais il a fallu un temps considérable pour que la monnaie remplace le troc, en somme.
Exactement.
C'est ça,
oui,
c'est un processus très lent.
C'est un processus très lent qui
remplace complètement le troc, je veux dire.
Ouais. Voilà, et qui se déroule là, dans des temporalités différentes selon les pays. C'est pas la même chose en Europe qu'en Asie, par exemple.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sujet ?
Alors, très curieusement, pendant mes études, tous mes professeurs m'ont dit qu'on ne connaissait pas les origines du franc suisse.
Pourtant, c'est pas une vieille affaire, on est au milieu du 19e siècle.
Complètement, ouais. Ça m'a beaucoup frappé qu'on me le répète, qu'on n'ait pas d'études sérieuses sur le sujet, alors je me suis penché là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des manquements dans l'historiographie sur le sujet. Et je me suis lancé dans cette affaire.
Bon, alors, grosse affaire. Vous êtes désormais, puisque j'ai votre thèse sous les yeux, docteur en histoire, c'est à l'Uni de Lausanne, et désormais aussi spécialiste de l'histoire de la monnaie, donc. La thèse du livre, c'est la longue construction d'une monnaie unique. Parce qu'évidemment, il y avait de la monnaie qui circulait en Suisse au 19e siècle et avant. C'est assez frappant au début du livre. On apprend que au moment où les premières idées d'unification du franc ou d'unification d'une monnaie suisse arrive, on a plus de 700 types de monnaie qui circulent en Suisse. Alors pas tous cantonaux, évidemment, pas tous suisses, mais d'Europe entière, quoi. Et puis les gens doivent faire du change avec toutes ces monnaies.
Voilà, alors il y a deux dimensions à cette thèse. C'est d'une part ce long processus d'unification et d'autre part, surtout, pourquoi le franc ?
Alors ça, on va y venir, mais la situation, on va dire, d'Ancien Régime, pour simplifier, jusqu'à ce que la Révolution française entre en Suisse et impose finalement une centralisation française à la Suisse, on utilise des monnaies de toute l'Europe, quoi. Les gens viennent avec leur monnaie, leur ducat, leur thaler, leur florin, leur franc, etc. Et puis, les commerçants suisses doivent, peser, on fait quoi ? On pèse le métal.
Exactement, c'est ça. Il y a des tarifs dans chaque canton, donc les gouvernements cantonaux décident ou non d'accepter certaines monnaies. Ce qui veut dire que les monnaies qui sont acceptées dans les Grisons ne sont pas les mêmes qu'à Saint-Gall ou à Lucerne. Et les commerçants doivent avoir des livres, des tables pour comparer ces monnaies, les peser, connaître leur poids, connaître leur teneur en métal.
Complication invraisemblable, hein, invraisemblable. Quand on y pense d'aujourd'hui, évidemment, c'était leur quotidien. Mais...
Pour nous, ça paraît fou, mais je crois qu'ils s'en sortaient plus ou moins bien. Ça n'aurait pas perduré si longtemps.
Il y avait des monnaies cantonales ?
Oui, bien sûr.
On frappait monnaie dans les cantons ?
Oui, bien sûr. La moitié des cantons frappent jusqu'à l'avènement de l'État fédéral.
Et ça veut dire, c'est comment ça s'appelait par exemple ? Je sais pas si le canton de Vaud, le canton du Val, enfin le canton de Vaud c'était Berne pour le coup, mais ça frappait, ça s'appelait comment, une monnaie bernoise ?
Ah, c'était des bats, ici dans le canton de Vaud, qui circulaient jusqu'à Berne, jusqu'en Valais, à Fribourg. On a des thalers à Berne aussi, des ducats. Donc il y a des... Ce qui est très difficile, c'est qu'une même pièce a le même... Enfin, une pièce a le même nom... mais pas la même teneur en métal d'un canton à l'autre. Donc on a des thalers à Zurich et à Berne, mais ce n'est pas exactement les mêmes pièces.
Bon, d'où vient... Moi, j'ai vu ça de façon un petit peu globale en lisant votre livre. Il y a une espèce, depuis la Révolution française, on va dire, de début des sentiments nationaux en Europe, avec une idée aussi de centralisation. Cette idée-là, elle est très française, elle est très jacobine, elle s'est imposée à la France. Elle a bavé sur les pays voisins, on va dire. C'est l'idée de centralisation, elle naît de la Révolution française ?
Oui, elle est même imposée à la Suisse.
Après l'acte de médiation ?
Alors avant, c'est durant ce qu'on appelle la République helvétique, en 1798, la France impose un gouvernement centralisé avec une monnaie commune. Ça dure 5 ans.
Mais qui est le franc français du coup ?
Non, alors...
mes questions vous font entrer dans des détails ?
Non, en fait, on choisit un franc bernois. On se base sur la monnaie bernoise, mais qui ne correspond pas tout à fait au franc français, pour laisser une certaine latitude au gouvernement suisse, et surtout pour que les anciennes pièces puissent encore circuler. Mmh. Et ça dure 5 ans, ça ne fonctionne pas très bien. C'est un gouvernement qui n'a pas assez de moyens financiers pour frapper des pièces. Donc les anciennes pièces continuent à circuler à côté des nouvelles.
Donc ça, c'était une première tentative d'uniformisation qui ne fonctionne pas et il faudra attendre 50 ans, 1848, la création de la Suisse moderne pour y arriver. Pendant ce temps-là, on en parle un peu tout le temps, il y a une espèce de construction mentale et politique de l'idée d'une monnaie ?
Alors oui, on en discute énormément au sein de la Diète fédérale, c'est donc l'ancêtre du Conseil fédéral. On en discute presque chaque année jusqu'à ce qu'on arrive plus à s'entendre. Donc en 1824, on cesse une première fois toute discussion parce qu'on n'arrive à aucun consensus. Et en 1840, la même chose, les autorités politiques fédérales cessent de discuter du sujet.
On verra qu'il y aura deux camps, non pas uniformisation ou pas, mais vers quelle monnaie étrangère on se dirige pour faire sa propre monnaie. Hein. Ça sera le combat entre le franc français et le florin. Mais avant ça, il y a un combat entre on veut notre... Enfin, fédéraliste, quoi. On veut notre autonomie cantonale. Venez pas vous nous embêter avec des idées de centralisation. En Suisse centrale, je crois, hein. Évidemment. C'est de là que ça vient, comme
alors,
toujours.
Oui, et surtout en Suisse orientale, parce qu'on craint sérieusement que s'il y a unification, on ne prenne pas pour base la bonne monnaie. Donc on prenne pour base la monnaie d'un voisin qui ne nous convient pas.
Bon, pour être très clair, on a les grands milieux industriels, industrie naissante en Suisse, hein, révolution industrielle naissante, les banques qui sont plutôt tournées vers le franc français. Vous allez m'arrêter si je dis des sottises, mais enfin, a priori, qui fonctionne un petit peu comme le dollar sur le continent européen.
Exact.
Monnaie de référence. Et puis, dans la Suisse orientale, on est plutôt en commerce constant avec le sud de l'Allemagne, puis on se dit, bon, bah, c'est avec cette monnaie-là du sud de l'Allemagne qu'il faut bosser, quoi.
C'est, voilà, schématiquement, c'est exactement ça. On a les banquiers, les grands négociants, les grands agriculteurs qui veulent ce franc. Et on a une poche de résistance très forte structurée autour de Saint-Gall qui refuse catégoriquement un autre ancrage que le florin.
Ça va loin, hein, ça va loin. Il y a des déclarations. On est presque à la séparation possible de cette petite confédération, quoi. C'est un sujet très clivant.
C'est un sujet très clivant, c'est très tendu, mais il y a des enjeux très forts derrière. Par exemple, les cantons de Suisse orientale dépendent du blé allemand. Il faut se dire qu'à cette époque, Saint-Gall dépend pour 60% de l'importation du blé allemand. Et ce qu'ils craignent, c'est qu'en changeant de monnaie, le prix du blé renchérisse.
Donc on va payer le blé beaucoup plus cher.
Et donc, comme conséquence, ce seraient les salaires qui augmenteraient. Et ça, ce serait catastrophique pour les industriels de Suisse orientale qui veulent maintenir des salaires très bas.
Alors, ah oui, bon, on est déjà là.
Voilà.
Ça, c'est bon. Bah, petite leçon de capitalisme du 19e siècle, au passage. C'est la Constitution de 1848 qui va permettre finalement, parce qu'on va mettre l'unité monétaire et le pouvoir de frapper monnaie, en somme, à la Confédération, qui va relancer le débat et puis le fixer, quoi.
Voilà, l'élément décisif, c'est vraiment 1848, la Constitution, où on décide de transmettre à l'État fédéral les compétences monétaires. Donc on se met assez facilement d'accord sur l'idée de centraliser les compétences, mais ça devient très compliqué au moment d'unifier. Parce que le problème, c'est la base.
Donc c'est justement savoir si on va aller vers le florin du sud de l'Allemagne ou vers le franc français. C'est tout l'enjeu hein, de ce moment de la moitié du 19e siècle. Je vous propose qu'on on parte là-dessus sur la deuxième partie, le début de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans un instant, Yann Carré.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Yann Carelli, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle de l'épopée du franc suisse, de sa création, de sa naissance. Et on était à ce moment où, il y a une nouvelle constitution en Suisse, 1848, fondation de l'État moderne. Et on attribue à la Confédération, au Conseil fédéral, la compétence de s'occuper de la monnaie. Ça, c'est le point de base. Et puis après, il va falloir faire un choix, on en a parlé, entre le franc français, qui est une sorte de greffer le franc suisse, la monnaie suisse sur le franc français ou sur le florin du sud de l'Allemagne. Et là, alors, si j'ai bien lu, il y a une espèce de coup d'état monétaire. Le Conseil fédéral mandate des études, mais avec le résultat qui est déjà décidé, en somme. Hein.
Alors oui, ce serait impensable aujourd'hui. Le Conseil fédéral, en fait, mandate un expert.
Un seul.
C'est un seul expert avec un mandat précis, c'est de produire une expertise en faveur du franc. Bien entendu...
Ouais, c'est comme si aujourd'hui on disait, voilà, il y a un expert qui va nous dire si les accords bilatéraux avec l'Europe c'est bien ou pas, et le résultat de son expertise, ça doit être que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais enfin,
voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc ce serait impensable aujourd'hui, il y a une très grosse levée de bouclier à l'époque, mais le Conseil fédéral balaie ça d'un revers de main. On a un Conseil fédéral donc en charge des finances, Joseph Münzinger, qui fait un choix très vite, c'est de choisir ce franc. Et donc, il trouve un expert balois, en la personne de Johann Jakob Speiser, avec le mandat précis de produire une expertise en faveur du franc.
Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va appeler le franc suisse parce qu'il y a le franc français. Là, on voit bien la descendance d'appellation, en somme. Est-ce qu'on va aussi, comme on l'a fait avec l'euro, à la naissance de l'euro, greffer le taux de change sur le franc français? On va avoir une monnaie parallèle?
On va avoir une monnaie parfaitement identique. C'est un débat qu'il y a aussi. Est-ce qu'on frappe la même monnaie mais qu'on appelle franc suisse, ou est-ce qu'on prend juste le nom et on change peut-être la teneur en argent? Et il est très vite décidé de choisir exactement la même monnaie pour une raison très simple, c'est que si les pièces sont similaires, elles peuvent circuler d'un pays à l'autre.
Donc il n'y a même pas de notion de confédération suisse. On a le on édite des francs français en somme.
En somme, oui. Alors, on édite des francs français, mais pour faire avaler la pilule, on dira, on met un dessin avec la Confédération helvétique dessus.
Ah oui, donc quand même.
On a les pièces suisses, bien entendu.
Donc, il y a une vraie naissance.
Il y a une vraie naissance. Néanmoins, les pièces sont parfaitement similaires. Et il faut savoir que c'est quelque chose de très fréquent au 19e. La Belgique a fait pareil avec les francs belges. Et l'Italie fait pareil 10 ans plus tard avec la lire italienne, qui sont des copies conformes du franc français.
On est dans une sorte de colonialisme monétaire, finalement. C'est la France qui pose son empreinte. Alors, je ne sais pas quel est le poids diplomatique dans ces choix de la France de l'époque, mais je pense au franc CFA aujourd'hui, où c'est encore la Banque de France qui décide comment les taux de change vont s'organiser pour des pays d'Afrique qui sont indépendants depuis 60 ans. C'était un peu comme ça. C'était la France qui dirigeait la monnaie suisse pendant un temps. Après, on verra qu'elle se sépare, évidemment.
Alors non. La France ne porte pas un très grand intérêt à cette question. Les rapports diplomatiques montrent qu'ils sont pas distants, ils sont contents, mais ça les intéresse pas plus que ça. Néanmoins, il y a un rapport très fort entre les deux pays, puisque la Suisse fait frapper ses premières pièces en France.
On n'a pas l'infrastructure
Alors, non, on a une infrastructure, c'est l'hôtel des monnaies de Berne, il y en a aussi un à Genève, mais le temps de tout mettre en ordre, d'organiser, d'engager du monde, on veut frapper très vite, et donc on va à Paris et à Strasbourg pour frapper les pièces, les premières pièces de l'État fédéral.
Alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un long processus, hein, depuis le tout début du 19e siècle jusqu'à 1848, où on s'engueule, on discute, tout va lentement dans la démocratie, et particulièrement en Suisse, on le sait, sur toutes sortes de sujets. Et puis alors à partir du moment où la décision est prise, ça va très vite, hein. Je crois qu'en 2 ou 3 ans, on a éliminé les autres monnaies, les monnaies cantonales, etc. On a fait ce qu'il fallait pour que cette nouvelle monnaie s'impose.
Alors voilà, c'est relativement rapide, c'est 3 ans en tout, entre le moment où on adopte le franc en avril 1850 et la loi du 7 mai 1850 et la fin de la réforme en 1853.
Ça s'est bien passé, parce que moi je me souviens, on a tous vécu, enfin en tout cas quand on a mon âge, quelques moments comme ça où on nous a dit, bah voilà, telle pièce de monnaie avant telle date ne sera plus valable, donc il faut vous en débarrasser, puis on vous laisse un délai pour le faire, d'aller à votre banque, etc. C'est le cas aussi quand on change les billets de banque, par exemple. Là, il y a eu des grugés, ça s'est bien passé, les gens ont pu convertir leurs économies, ça s'est fait doucement.
Alors, comme toujours en Suisse, ça dépend des cantons. Il y a des cantons qui se ruent aux caisses fédérales mises en place pour changer leurs pièces et d'autres qui refusent catégoriquement. On a une commune du Valais, par exemple, qui refuse de changer ses pièces, les habitants de la commune. Et au contraire, à Zurich, les bureaux sont assiégés le premier jour. Donc ça dépend, mais dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Et chaque canton a 1 mois. Pour changer ses pièces.
Ah oui, là c'est très court.
C'est très court. Les pièces sont ensuite triées par canton, par ancien canton émetteur, puis fondues. Donc il n'y a pas de retour. Ce qui
fait pas votre affaire de numismate d'aujourd'hui.
Non.
On n'en trouve plus ou plus beaucoup.
On en trouve encore, mais moins. Ouais. Elles ont été fondues pour 2 raisons, pour récupérer le métal, pour frapper les nouvelles pièces, et pour éviter tout retour en arrière.
C'était une table rase.
C'est une table rase et c'est intéressant de noter que la plus vieille pièce qui circule et qui est retirée date de 1424.
Ah oui.
Elle provient de l'abbaye de Saint-Gall. Donc il y a des pièces.
Et ils auraient pu l'utiliser.
Voilà.
Ah oui. C'est
donc,
fou.
Il y a des pièces vraiment très anciennes qui circulent.
On avait le souci à ce moment-là, quand on voyait une pièce de 1424, de se dire, bon, on va peut-être pas la fondre, celle-là. Est-ce qu'il y avait un regard sur le passé ?
Cette sensibilité, elle se développe surtout durant la deuxième moitié du 19e.
Voilà, parce que c'est là que je voulais en venir. Il y a après une espèce de valeur culturelle qui s'installe avec cette monnaie. C'est sans doute le cas dans d'autres processus de monnaie nationale. On est dans l'époque des nationalismes. Il faut créer un pays avec plusieurs langues, avec plusieurs sensibilités, avec plusieurs religions. On met Dame Helvétie sur la pièce et puis ça fait partie du récit national.
Oui, ça fait partie d'un récit, mais on fait bien attention de ne froisser personne. Ça, c'est très important à l'époque. Un exemple type, c'est qu'on n'impose pas une seule langue sur les pièces de monnaie. On choisit le latin. Pour que justement, que ce soit les Suisses allemands ou les francophones ou les Tessinois ne soient pas mécontents. Donc on choisit des abréviations du latin, on prend une allégorie féminine pour justement essayer de représenter une Suisse qui est difficilement représentable et qui sort surtout d'une guerre civile.
Oui, c'est le Sonderbund, hein, évidemment.
Exactement.
Là, c'était pas juste pas vexer les gens, c'était pas redonner matière à se combattre. Quoi.
D'autant plus que durant les débats sur l'adoption du franc, on a des députés saint-gallois qui menacent de guerre civile. Donc c'est que des menaces, mais ils sont vraiment remontés. Donc on veut froisser personne.
Vous diriez que la monnaie a eu son rôle dans la construction d'un État, on parle de la Suisse 1291, la création de la Suisse réelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est 1848, on est dans une construction d'un État. La monnaie a eu un rôle, évidemment, majeur.
Oui, je pense, notamment pour les autorités politiques. C'est aussi un acte fort de réussir à unifier là où tous les prédécesseurs n'ont pas réussi. C'est un acte fort pour le nouvel État fédéral de parvenir à faire une réforme en 5 ans. être d'imposer, si on veut, une nouvelle monnaie à l'ensemble des citoyens.
Petit pays, hein, mais on retrouve un petit peu la construction de l'euro finalement, hein, mais évidemment une échelle beaucoup plus large et qui a peut-être moins bien réussi, en tout cas pour l'instant. Par rapport à la réussite de ce franc suisse, on a compris qu'au début, sans être inféodé, il est quand même satellisé, c'est un satellite du franc français qui est la grosse monnaie du continent européen à l'époque, et puis il va prendre son indépendance. Alors on va enjamber les décennies là, mais comment ça s'est passé cette affaire? Pourquoi tout à coup le franc suisse n'est plus le franc français bis ou le franc belge comme le franc belge finalement, mais devient une valeur refuge, quelque chose d'important, qui est une monnaie forte qu'on connaît aujourd'hui?
Alors c'est un processus très long. Le franc suisse est une monnaie de seconde voire de troisième importance jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est une monnaie très peu recherchée. Elle est toujours mal cotée par rapport au franc français. Et on a un moment de bascule décisif, c'est la Première Guerre mondiale. Puisque la Suisse reste neutre, sa monnaie a toujours cours. Et avec l'afflux de capitaux qu'il y a en Suisse pendant cette période, on a un franc qui se renforce. Au contraire, d'autres monnaies comme le franc ou la livre perdent énormément de valeur, jusqu'à 60 ou 70% de leur valeur. Et face à ça, on a un franc qui reste stable.
Donc on s'est glissé finalement entre les monnaies européennes des grands pays qui entrent en décadence à cause de cette déflagration mondiale et le fait que le dollar n'était pas encore omnipotent, quoi. On s'est glissé dans un trou de souris là.
Alors oui, et puis le dollar, c'est justement après la Première Guerre que ça devient la monnaie mondiale de référence, alors qu'avant ça c'est le franc français qui endosse ce rôle à l'échelle internationale.
Bon, le franc suisse s'est greffé, donc, enfin, s'est forgé cette réputation de valeur refuge, de valeur neutre, hein, échappant aux guerres. J'imagine que la Deuxième Guerre mondiale a aussi renforcé ce statut-là. On se demande souvent dans le public, dans le grand public, c'est une qualité ou un défaut? On est fier d'avoir un franc fort, mais en même temps, chaque fois qu'on a un franc trop fort, c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
Oui, alors là, c'est une question de politique monétaire, effectivement. C'est difficile à gérer, mais disons que quand on regarde les 150 dernières années, on voit qu'on a créé une monnaie dans des conditions très difficiles, que les premières années du franc sont très mouvementées et qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une monnaie qui est étonnamment stable à l'échelle internationale.
Bon, ce qu'il faut se dire, quand le franc est fort et que les prix montent, que les exportations sont difficiles, on a connu ces périodes-là et n'est pas exclu qu'on y revienne, hein, avec l'état du monde. C'est des moments difficiles à passer, mais sur le temps long, la stabilité du franc est plutôt une excellente nouvelle pour ce pays.
Totalement, ouais. Oui. Et on arrive à le maintenir stable.
Bon, on aura encore des francs dans 30 ans?
Alors, on va voter dessus bientôt, normalement. Il y a plusieurs initiatives qui ont été déposées là-dessus. Est-ce qu'on inscrit le franc suisse dans la Constitution? Est-ce qu'on inscrit le droit à avoir de l'argent liquide dans la Constitution? C'est des débats qui vont animer notre société ces prochaines années.
Ça veut dire la possible disparition des pièces, hein, des pièces, des billets, voilà. pour de l'argent numérique, quoi.
Voilà, aujourd'hui, il y a l'argent numérique, il y a l'euro aussi, il y a plein d'alternatives qui existent. Donc se pose la question, est-ce qu'on garde ce franc qui pourrait paraître pour certains un vestige de l'ancien temps?
Ça me paraît complètement hallucinant comme discours. Alors moi, j'ai pas forcément d'avis, je m'en fiche un peu, mais il me semble qu'il y a un attachement de ce pays au franc.
Il y a un attachement, surtout...
La population, je veux dire.
Voilà, c'est un symbole. C'est le franc, c'est un symbole d'un pays qui réussit, qui a une santé économique qui va bien, alors que ce n'est pas le cas du tout à l'étranger, autour de chez nous. Donc ce symbole est très fort et ce sera très difficile de s'y attaquer.
Bon, on arrive gentiment à la fin de cette émission. Yann Carelli, j'aimerais encore vous poser quelques questions sur votre vie autre qu'académique. On est dans cette boutique de numismatique à Lausanne. Vous êtes entouré. Qu'est-ce qui vous émeut dans une monnaie que vous pourrez toucher peut-être pour la première fois parce qu'on va venir vous l'amener?
C'est l'histoire de chaque pièce. Parfois on se demande où est-ce qu'elle a bien pu aller, dans quelles mains, pourquoi elle se retrouve ici à Lausanne, quelle a été en fait son histoire, comment ça se fait qu'elles arrivent jusqu'à nous alors qu'elles auraient pu justement être fondues ou bien être perdues.
Ça fait mal au cœur de les vendre parfois.
Ça fait un pincement parfois, ouais. Oui. Mais on sait qu'il y en a d'autres, on sait qu'il y a des collections qui existent, donc il y en aura sûrement d'autres.
Il y a un vrai marché, hein, c'est quelque chose d'assez peu connu dans le grand public, mais il y a un vrai marché sur un petit peu comme les... Alors les timbres, c'est peut-être un petit peu plus anecdotique aujourd'hui, mais un peu comme le marché de l'art en somme. Hein, il y a un vrai marché, il y a des cotes, il y a des experts, c'est un monde assez fou.
Oui, qui a perdu un peu en importance ces 20 dernières années, mais qui reste toujours important. Avec justement des pièces du monde entier qu'on peut regarder, qu'on peut montrer autour de nous, qui intéressent beaucoup les enfants.
Des ventes aux enchères. Hein, très...
Des ventes aux enchères, avec des prix records aussi. Et avec cette particularité pour la numismatique suisse, d'avoir des pièces extrêmement rares.
Ah, du fait notamment de la disparition de ces monnaies à l'éclosion du franc suisse.
Voilà, notamment, et du fait que la Suisse n'a pas frappé beaucoup de pièces au 19e, mais qu'elle s'est reposée sur la circulation des francs français, et que certaines années, on a très très peu de pièces qui ont été frappées.
Bon, allez, décrivez-moi une pièce qui vous vous êtes dit « Waouh, incroyable !»
Alors, la plus connue, ou l'année la plus connue, c'est 1896, où on a seulement quelques centaines ou milliers de pièces qui ont été frappées. Une pièce de 5 francs de cette époque se négocie aujourd'hui à plus de 100 000 francs.
Plus de 100 000 francs ?
Voilà.
Une pièce de 5 francs, une thune.
Voilà, une thune de 1896, oui. Voilà, donc il y a quelques années comme ça, extrêmement rare.
Mais pourtant, elle ressemble à celle de 1897 et à celle de 1895, on est bien d'accord, il n'y a rien d'esthétique là-dedans.
Exactement, hein. Ouais. C'est uniquement la rareté, c'est la quantité de pièces qui ont été frappées.
Bon, eh bien, merci pour toutes ces informations, Yann Carelli. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une somme, alors une somme universitaire. Je ne sais pas, il y a quoi, il y a 1000 pages là, en tout cas, hein, à voir l'épaisseur. Mais vous l'avez vulgarisé pour le grand public, La naissance du franc suisse aux éditions Savoir Suisse. On y apprend plein de choses sur notre histoire récente, mais une histoire importante, on l'a bien compris. Merci à vous.
Merci.